Salut la gang, bienvenue à ce cinquième épisode de Femmes de fer. Aujourd'hui, je reçois Andréane Marquis derrière la marque Womans, qui est une boutique de mode pour femmes en ligne. Andréane nous raconte les secrets derrière le succès de Womans, ses pop-up stores, mais également ses regrets et à quel point c'est pas toujours facile d'être une entrepreneur et de trouver les bons employés. On écoute l'entrevue dès maintenant. Bienvenue à Femmes de fer, le podcast qui vous aide à atteindre vos rêves les plus fous. Je suis votre animatrice Sophie Monmini, rédactrice, productrice et mompreneur qui veut toujours tout connaître sur tout. Je vous invite à vous joindre à moi chaque semaine où je m'entretiens avec des femmes inspirantes. Chaque jour, elles atteignent leur plein potentiel et elles vous donnent leurs secrets pour vous aider à réaliser vos objectifs. Vous êtes prêtes? Let's go! Allô, Andréane!
Salut, Sophie!
Merci beaucoup d'avoir accepté de participer au podcast Femmes de fer.
Ben merci de l'invitation. C'est très, très gentil. Je suis très choyée.
Andréane, c'est drôle parce que on se connaît, mais on se connaît pas vraiment, dans le sens qu'on se suit, on se côtoie un peu dans la même sphère, la même gang au niveau de la mode, au niveau du commerce et des femmes de fer qu'on connaît chacun de notre bord. J'ai l'impression que je te suis aussi sur Instagram. Je suis une grande fan. J'adore ce que tu fais. Je suis une fan aussi de ta boutique en ligne et depuis vraiment longtemps. Mais sincèrement, c'est depuis longtemps parce que je t'ai vu évoluer et quand j'ai parti mon podcast, je t'avais mis sur ma liste, mais je pensais pas te parler aussi rapidement. Alors, je suis tellement contente
ça me fait vraiment plaisir. Merci pour les beaux mots. C'est super gentil.
Pour ceux, Andréane, qui ne te connaissent pas ou qui vivent peut-être sous une roche, parce que je pense que tu es connue quand même de beaucoup de monde, mais quand même, explique-moi un peu, c'est quoi ton histoire?
La raison pour laquelle bien des gens me connaissent, j'ai fait Occupation double, ça va faire, je pense que ça va faire 7 ans. T'sais, moi, quand je partais à OD, j'avais jamais pris l'avion de ma vie. Là. Le plus loin que j'étais allée, c'était à Ottawa, en char. Fait que c'était vraiment une expérience en soi. Puis, c'est un peu à partir de là que la majorité des gens ont appris à me connaître. Je voulais faire de la télé, je voulais faire de la radio. Tu sais, quand on sort d'OD, on a tout envie de faire ça. Finalement, je me suis rendu compte que c'était vraiment pas ma tasse de thé. C'est vraiment pas... j'ai pas tant aimé les expériences que j'ai eues. J'avais comme un peu de la misère. C'est bizarre à dire, mais c'est de la misère à être toujours de l'avant. À la base, nous, quand Womans s'était créé en 2015, des boutiques en ligne au Québec, il n'y en avait quasiment pas. Oui. T'avais des gros retailers qui commence à avoir une présence web, mais tu n'avais pas nécessairement de boutique en ligne qui était comme aujourd'hui, il y en a une qui naît à chaque semaine. T'sais, on en voit beaucoup. Fait que c'était un peu dans l'inconnu. Puis moi, ben, je me disais, c'était toujours la même chose. Moi, dans ce temps-là non plus, il n'y avait pas d'influenceurs. Les influenceurs n'existaient pas. Les compagnies ne payaient pas les filles et les gars pour porter leurs vêtements. Puis moi, c'était toujours, à chaque fois que je portais quelque chose, des filles sur les réseaux sociaux, « Ah, t'as pris ça où? T'as pris ça où? T'as pris ça où? » Puis moi, les compagnies, des fois, ils me donnaient des vêtements, je vais comme me faire payer, puis ils ne voulaient jamais. On parle d'il y a comme 4 ans, mais il y a 4 ans, là, les compagnies donnaient zéro argent. Fait que moi, je me suis dit, ben, il doit y avoir quelqu'un qui fait de l'argent là-dedans, puis c'est pas moi. Fait que je me suis dit, c'est vraiment parti de là. Je me suis dit, ben voyons, pourquoi que j'achèterais pas les vêtements et je les revendrais pas? Si simple dans ma tête, mais ô combien pas simple en vrai. Puis mon départ, moi, je pensais faire ça à temps partiel toute ma vie, là, la petite boutique en ligne. Là. Je n'avais pas de grand plan d'entrepreneur tant que ça. Puis moi, j'ai une très, très grande passion pour la politique. Fait que je m'étais juste dit, ah, je vais faire ça en attendant, puis je vais retourner travailler en politique comme je le faisais avant. Puis
finalement. Deux choses complètement différentes.
Ouais, je sais. Oui. Mais c'est-tu quoi? C'est la politique qui m'a convaincue que je pouvais me partir en affaires.
Ah, parce que
c'est fou. Parce que les gens en politique sont nous, moi je suis en cabinet politique, ces gens-là, ça travaille comme rarement j'ai vu des gens travailler. C'est la passion, le cœur, ils s'y mettent tellement. Puis moi, je me suis rendu compte que c'est comme ça que je travaillais en politique. Je me disais, hey, mon Dieu, si je mets toute cette énergie-là, ce cœur, d'avoir les valeurs, puis suivre tes lignes directrices, si je mets tout ça pour moi, dans ma tête à moi, j'allais pas avoir une business dans la vie. J'allais pas gérer une business. Ça n'a jamais été dans mes plans. J'avais jamais pensé à ça. Mes deux parents sont entrepreneurs. Mes parents, maintenant, sont séparés, mais avaient des commerces d'horticulture ensemble. Ma mère les a encore aujourd'hui. Puis moi, j'ai catché à l'âge de 17 ans que c'était à eux autres. Il avait passé à travers une faillite, puis tu sais, mais j'avais jamais compris. Puis là encore, aujourd'hui, je comprends plus tout ce que ça l'impliquait. Mais moi, eux, ils m'ont tout le temps dit, tu as passé le tiers de ta vie à travailler, fait qu'arrange ça pour faire quelque chose que tu aimes. Moi, j'ai jamais senti qu'ils allaient travailler. Tu sais, on allait travailler avec eux autres. Ça a tout le temps été comme partie intégrante de notre vie. Puis eux, tu sais, on encourage beaucoup l'entrepreneuriat. Malheureusement, je pense qu'on encourage pas nécessairement le bon entrepreneuriat. Tu sais, le but, c'est pas de devenir riche, là. Tu sais, le but, c'est de te créer un salaire, te créer une vie, pouvoir subvenir à tes besoins à travers une passion que tu développes. Tu sais.
C'est ça, j'étais pour dire, parce que c'est super intéressant. J'ai l'impression que tes parents, dans le fond, t'ont donné la fibre entrepreneuriale sans que tu t'en rendes compte.
Sans zéro que je m'en rende compte.
Puis t'es passé à travers probablement des hauts, des bas d'une business, puis tu l'as absorbé. Et tout d'un coup, toi, t'as l'impression que ça t'est venu tout d'un coup, peut-être cette business-là, mais tu le savais pas, mais peut-être depuis que t'es jeune, finalement, t'apprenais à être entrepreneur. En tout cas, je lance
probablement, même encore aujourd'hui, c'est drôle, les filles au bureau, tu trouves ça drôle quand je dis ça, mais moi, je dis tout le temps, je sais pas trop ce qu'on fait, là. Je vais vous dire, les filles. C'est moi qui s'occupe des achats pour la compagnie. C'est tout moi qui achète les vêtements. Puis moi, j'ai pas de cours là-dedans. Ben, moi, j'aime pas les vêtements serrés. Fait que c'est plate, on vend rien de serré. Mais tu sais, à un moment donné, il va falloir que je délègue. Mais moi, je connais rien. Moi, j'achète ce que je trouve qui est beau.
Donc, explique-moi un peu pourquoi tu as décidé de partir une boutique en ligne versus une boutique physique.
Il y a le gros côté monétaire qui est là. Puis il y avait beaucoup aussi le côté, ça n'implique rien. T'sais, ça n'implique personne. Ça n'implique pas un bail pendant longtemps. J'avais pas, moi, j'ai emprunté 15 000 $ quand j'ai commencé la compagnie, puis c'est tout, là. L'influenceur n'existait pas. Fait que moi, c'était vraiment, ma logique était, je vais acheter les vêtements, je vais les revendre, c'est tout. T'sais, étant donné que j'avais pas la fibre de dire, moi, je veux ouvrir une boutique, je veux vendre tant, je veux avoir des employés. Ça n'a jamais été, moi, c'est arrivé après que j'ai fait, ben voyons, bon, faut que je pense à ça. Mais sinon, au départ, c'était vraiment... comme quelqu'un qui déciderait aujourd'hui de dire, ben moi, dans la vie, je veux être influenceur, ben il bâtit ses trucs, puis là, ben, ma vie se fait payer. Fait que moi, c'était comme dans cette lignée-là.
Est-ce que vous payez maintenant des influenceurs pour porter vos vêtements?
Non, jamais. Non. On n'a jamais payé personne. On ne travaille pas avec des influenceurs.
Non.
Non, zéro. C'était comme pas arrivé. Moi, quand j'ai ouvert la boutique, là, Sophie, là, j'ai vendu 2 t-shirts la première semaine. Puis, je m'en te le dire, là, les gens m'aimaient. Là. Les gens m'aimaient beaucoup. Les gens me disaient qu'ils m'aimaient. Et on avait accumulé 15 000 adresses courriel. Les gens avaient hâte à ce projet-là. Je me suis dit, tabarouette, moi, j'étais riche du jour au lendemain. Ôtez-vous de l'impôt, tu sais. Puis, j'ai vendu 2 t-shirts. Fait que ça m'a comme un peu refroidi sur. C'est pas parce qu'il y a 100 000 personnes qui te suivent que tu vas faire vendre du linge. Tu sais, moi, j'ai fait bon. Et moi, puis moi, j'étais sûre, là, je tout basé ça sur moi, j'ai check ben ça allait. Non. Fait que, on aurait dit que l'influenceur en tant que tel ne m'a pas parlé encore. Je me suis pas dit, ça serait une bonne idée. Je pense que les clients haïssent pas ça non plus qu'on travaille avec elles. Nous, notre pub, on s'est fait avec nos clientes, là, tu sais, on s'arrange pour qu'elle ait un bon service, qu'elle ait un produit de qualité livré le plus rapidement possible. T'sais, c'est avec elle qu'on travaille à place de dire, ben, telle personne a porté ça, fait qu'achète-le. Mais, tu sais, dans les derniers temps, je le regarde beaucoup, puis je pense, il y a des influenceurs chez moi qui m'intéressent, que j'aime bien, que je me dis, tu sais, c'est exactement notre style de personne. Puis il y en a qui achètent, tu sais, il y a des influenceurs qui achètent d'eux autres même, là. Ça fait pas partie de ma stratégie, si on peut dire. Mais ça, je l'écarte pas, surtout pas pour sortir du Québec. Je pense que c'est à considérer. C'est, on n'aura pas le choix.
Oui, puis je pense quand on embarque dans ce sujet-là d'influenceur, faut être certain premièrement, à qui on s'adresse, quel genre d'influenceur on veut, quel vibe, quel style, faut que ça te ressemble, faut que tu sois à l'aise avec cette personne-là. C'est pas juste de dire, cette personne-là a 100 000 followers, donc je vais aller la chercher parce qu'elle va me faire vendre, parce que c'est pas nécessairement de même que ça marche.
C'est ça. Puis moi, mon but, c'est pas non plus, tu sais, nous, on vend pas de chandail, il en reste quasiment plus, là, mais on vend pas de chandail avec le gros mot woman dessus, tu sais. Notre but, c'est pas que tout le monde porte nos vêtements du jour au lendemain, puis qu'on vende 15 millions demain, là, ça m'intéresse pas. Ça m'excite pas. Moi, ce qui m'excite, c'est qu'on trouve une façon d'être là longtemps. Dans 15, puis dans 20 ans, on existe encore. Fait que j'ai pas l'impression que c'est en y allant sur le mass market. Je pense que le but, c'est pas d'être partout, mais c'est d'être bien aux bonnes places.
D'où vient le nom Women's?
Hey, ça, là, c'est drôle, mais moi, dans le fond, je travaillais avec les mauvais garçons à Québec, notre agence web, quand on a créé l'image de marque, puis on était dans un chalet à Stoneham, juste des gars. Puis là, on essayait de trouver ça va être quoi le nom, ça va être quoi le nom. Puis on avait sorti des noms comme La Griffe, qui était dans ce temps-là, en 2015, des mots très francophones venaient très à la mode. Puis à un moment donné, il y a un des gars. Tu sais, mais dans le fond, s'il y a de la bromance, tu sais, on peut créer de la womance. Puis ça a juste comme fait, on a fait, ben voyons. Puis on s'est rendu compte que le mot n'existait pas. Nous, quand on a créé woman, ce mot-là n'existait nulle part. Sinon, on a la propriété intellectuelle au Canada puis aux États-Unis. C'est un mot qui n'existait pas.
Ah, oh,
wow! Tu dis, ben voyons. Puis, tu là, ici au Québec, c'est une chose. Tu sais, mon père, il est sûr, ça s'appelle Womance, là. Mais aux États-Unis, moi, quand je travaille avec mes fournisseurs, là, puis Womance, Bromance, tu sais, eux autres, c'est comme. Puis nous, on n'a pas fait beaucoup de marketing sur le Bromance, Womance, parce qu'on attendait d'avoir les propriétés intellectuelles avant de le faire. Là, on vient d'avoir les deux. Ça fait un an qu'on a essayé au Canada, puis ça fait comme quelques mois qu'on l'a aux États-Unis. Fait que là, on va comme.
Félicitations.
Ouais, non, c'est ça, c'était très cool.
Puis aussi d'avoir la propriété intellectuelle de ce nom-là aux États-Unis, ça veut quand même dire beaucoup parce que c'est une grosse démarche faire ce genre d'achat-là de nom, d'aller s'installer là. Est-ce que ton but, là, c'est d'aller te lancer aux États-Unis?
Pas vraiment.
Non.
Je dirais que, tu sais, nous, on distribue des vêtements, on achète et on revend, là. On fabrique rien. On est vraiment un distributeur. Puis la compétition est vraiment loin. Puis moi, je pense qu'on peut devenir une entreprise canadienne très forte dans ce mass market-là, qui est du fast fashion, là. C'est oui, qu'on roule ici, qu'on est basé ici, qu'on crée des taxes, qu'on paie de l'impôt ici, qu'on crée de l'emploi ici. Tu sais, effectivement, on fabrique rien. C'est pas, puis le domaine est tellement en train de changer aussi, tu sais, on comprend. Prends-moi la réalité quand on est consommateur, mais en tant que business, tu sais, de faire entrer des vêtements au Canada, faire passer les douanes, tous ces trucs-là, c'est des frais, là. C'est pas rien de dire, ben demain, je vais vendre aux États-Unis. C'est pas si simple que ça en a de l'air. C'est simple pour des gros joueurs comme des Amazon, mais pour des petits retailers comme nous, ben c'est une autre game.
J'imagine que c'est toutes des choses que tu as apprises sur le tas, comme on dit, parce que si je reviens là à ce que tu as dit, tu es parti avec 15 000 $ dans tes poches pour partir cette business-là. Et moi, je veux savoir comment tu as fait pour dénicher tes premières pièces, parce que c'est pas toi qui les fais, c'est pas toi qui les design. Donc, tu es allé quoi dans des wholesale à Elite?
Au début, on travaillait avec des marques. Okay. On vendait Minpink, Herschel, Minimum, tu sais, des marques comme ça. C'est vraiment ça le but à la base. Ensuite de ça, plus que ça a avancé, plus que le web a pris de l'ampleur. Puis là, ben, tu sais, je vends ton sac sur ma boutique. Tu sais, c'est des prix que eux décident du prix que tu vends, tu sais, pour que ce soit égal partout. Je vends mon sac Herschel à 50 $ admettons. Ben là, tu t'en vas sur leur boutique à eux. Ils le vendent à 50 $ avec 20 % de rabais, plus ta livraison gratuite. Tu sais, c'est trop des. T'sais, moi, je peux pas y arriver, là. Puis tu sais, la livraison, nous, avant, c'était. Le prix que Post Canada disait, fait que c'était 12 à 15 $ C'est quoi la raison pour laquelle tu viens acheter chez nous au fond? T'sais, si tu peux tout trouver exactement ailleurs, puis rapidement, autant que moi, puis à vraiment moins cher, ben là, t'es comme bon. Après ça, ça a été qu'est-ce qu'on pourrait faire? Fait que c'est là qu'on a commencé à travailler avec des très, très grosses manufactures qui, eux, ben, ils vendent à plein de monde, mais c'était de dire, ben, eux, dans le fond, ils nous fournissent des prototypes. Ensuite, on en achète des quantités, puis eux, ils installent, tout est fait là-bas, puis ça rentre au pays après. Puis c'était de trouver la façon de se démarquer. Fait que c'était soit dans le service à la clientèle, la livraison rapide, la livraison moins chère. Fait que c'était comme d'offrir ce que c'est très, très grosses plateformes-là ne sont pas capables d'offrir parce qu'elles sont trop gros. On va venir peut-être être obligé de faire produire les vêtements parce que là, on fait trop de quantité pour ce qu'eux fournissent. En même temps, c'est nous, dans le fond, de fonctionner comme ça, ça nous offre de la rapidité. Ça me permet de pas, 6 mois à l'avance, savoir qu'est-ce que je vais vendre. Les barrettes viennent en mode, en way d'être qu'on achète des barrettes, puis on vend des barrettes. Ça nous offre une rapidité qui est assez impressionnante. C'est pas une question environnementale de dire, est-ce que je me mets à produire? Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est pas bon? Mais là, vu que je ne produis pas, je ne me trouve pas à avoir d'exclusivité. Mais en même temps, dans le fast fashion, une laine, c'est une laine. Ce n'est pas comme si on se démarquait de la fabrication pis, et tout et tout. Il y a comme plein de gros questionnements lesquels on est en train de se faire face parce qu'on on grossit. Puis là, bon, ben, on faut fournir à la demande aussi, chose qu'on n'arrive quasiment pas à faire. Parce que,
oui, est-ce que tu es surprise de ce succès-là? de maintenant?
Ah, moi, des fois, je comprends rien, là. Tu sais, je suis comme, je comprends pas, là. J'essaie de prévoir des affaires, puis je suis comme, mais on. Fait que, tu sais, des fois, ça n'a pas de bon sens, là.
J'espère que vous aimez l'épisode d'aujourd'hui. Avant de continuer, je vous invite à consulter le site web de Femmes de Fer, où je vous ai préparé un e-book gratuit dans lequel vous avez 5 astuces pour savoir comment bâtir votre liste de courriels. Alors, si vous voulez pousser le sujet encore plus loin pour vous aider à bâtir votre entreprise, allez sur sophiem.ca/femmes de fer podcast.
Mais on part du 2 t-shirts que tu vendais au début. Là, qu'est-ce qui s'est passé pour que maintenant ça te surpasse là, ce succès-là?
T'sais, on a fait beaucoup les pop-up stores là, un bon bout. Là, on s'est promené à travers le Québec. Je pense qu'on a fait connaître la marque. Les gens ont développé une confiance. Au Québec, on n'achète pas beaucoup sur le web. Là, pas tant que ça comparativement à bien d'autres places. Il faut avoir un lien de confiance fort. Fait que je pense que ce lien de confiance-là s'est créé. Puis ça s'est créé de cliente en cliente. T'sais, nous, c'est 48% de nos clients que c'est du récurrent à chaque mois. C'est très élevé comme taux. Fait que ça veut dire que nos clientes, ils achètent tout ce qu'on leur vend dans le fond. Les clientes qui ont déjà acheté, ils rachètent toujours une pièce. Si nous, mettons à Noël l'année dernière, à place de justement dire ben, on va travailler avec des influenceurs pour vendre plus de linge, ben, on a envoyé à nos 50 meilleures clientes 50 cadeaux sans leur dire parce qu'on a jugé bon que. Moi, je me suis dit, si toi, Sophie, tu es dans nos 50 meilleures clientes, puis tu reçois ton cadeau à Noël, ben. Puis tu vas parler à tes soupers, t'as 60 novembre, mais maintenant tu vas parler à tes soupers d'amis, tu vas dire, hein, genre, moi, j'achète souvent chez Woman, genre, c'est un cadeau, genre, tu sais, de nowhere, genre, avec une note personnalisée pour me dire merci d'avoir acheté, d'avoir passé comme 40 commandes sur la boutique. On a jugé que ça, ben, que toi, tu témoignes ça, tes amis valaient peut-être plus que mettre 2 000 $ en pub sur une campagne médias sociaux, tu sais. Fait qu'on, je pense que c'est un peu comme ça que ça s'est fait.
Mais à t'écouter parler, là, je pense que tu es la preuve que le service à la clientèle est une des choses les plus importantes. Et des fois, on dirait qu'on met ça un peu de côté parce qu'on se dit, ben j'offre des pièces, je me mets de l'avant, j'en parle, je fais du marketing, j'achète de la pub, Google, j'achète ci et ça. Puis finalement, le bouche-à-oreille et la cliente qui est heureux, c'est la chose la plus importante au monde. Mais tu as fait beaucoup de pop-up stores où on a vu vraiment le succès. Il y avait des lignes, des files d'attente quand ça ouvrait et tout ça. Est-ce que ça t'a donné le goût de se dire « je vais peut-être avoir une boutique physique ou pas du tout? »
J'y ai beaucoup pensé. Mais moi, dans le fond, là, il y avait quelque chose que j'avais vraiment pas pensé en me lançant là-dedans. C'est drôle parce que on a sorti la campagne avec Indeed, puis moi, quand ils m'ont approché, les gens de chez Indeed, ils voulaient parler de le fait que c'était difficile, tu sais, la pénurie de main-d'œuvre, d'engager des gens. Puis je disais, ah, tu sais, moi, dans le fond, c'est ce que j'avais pensé à moi, mais je veux pas me péter les bretelles, mais nous, on a vraiment pas de difficulté à engager des gens. Là. Je veux dire, on sort une story pour engager des gens de faire des boîtes. On reçoit 70 CV en 2 jours, tu sais. Puis là, tu dis, ben voyons, c'est quand même bien juste faire des boîtes, mais tu sais, on aurait des gens veulent comme participer au projet. La raison pour laquelle j'ai décidé de ne pas faire de boutique physique, c'est principalement parce que moi, je pensais pas devoir gérer du monde dans la vie. Je suis vraiment pas bonne. C'est vraiment pas ma tasse de thé. Je trouve ça difficile. Je trouve ça. Je pense que les gens en entrevue, je les prendrais toutes. Tu sais, je suis comme, c'est ça, c'est touché. C'est drôle qu'avec Indeed, il m'approche, puis il était comme, crime, tu nous apportes tellement de vision qu'on voyait pas, que dans le fond, effectivement, tu sais, c'est difficile d'engager des gens, tu sais, là, ça doit être 80% des gens qui engagent des gens, c'est des PME, tu sais, puis on sait pas comment faire au départ. Tu sais, moi, j'ai pas de formation là-dedans, j'ai pas étudié en ressources humaines, je sais pas c'est quoi poser les bonnes questions d'entrevue, tu sais, je suis comme, la boutique physique comparativement au web, ben, ça vient avec des implications financières qui sont beaucoup plus grandes. La gestion de l'horaire, tu sais, moi, j'engage les filles, là, puis je leur dis, tu sais, les filles, là, dans le fond, là, vous gérez votre horaire. Il y a tant de colis à faire aujourd'hui, fait que gérez ça comme vous pensez qu'ils vont être finis. Le gars de la poste passe à 3:45, il faut qu'à 3:45, soyez là, vous voulez partir à 4, partez à 4. Vous voulez faire du 7 à 3, vous faites tout le temps dans le laisser-aller puis dans le comme faites ce que vous avez à faire, mais gérez-vous là-dedans. Puis la boutique physique nous obligeait à avoir des horaires. Puis moi, je me dis, oh mon Dieu, s'ils ne rentrent pas travailler, va-tu falloir que j'y aille? Tu sais, j'étais comme devenue dans un angoisse de tout ça, qu'il y a bien des gens qui partent en affaires puis eux autres, ça leur glisse sur le dos.
Que tu travailles full-time, temps plein, lundi jusqu'au dimanche, all the way, ou pour toi, c'est pas tant du travail parce que c'est ta business, c'est ta passion?
Hey, comme... C'est drôle, là, parce qu'on se part en affaires. On se dit, hey, m'a pas géré mon horaire, mon faire ce que je veux. Mais effectivement, mais moi, je n'ai jamais autant travaillé que dans les 4 dernières années. Mais moi, j'ai pas l'impression que je vais travailler. Là. J'ai vraiment pas l'impression que je vais travailler. Là. Puis à chaque jour, j'en apprends. Tu sais, moi, j'aimais pas les chiffres, j'aimais pas la comptabilité. Puis, tu sais, j'apprends là-dedans. J'apprends. Tu sais, moi, j'ai pas d'orgueil, puis j'ai pas beaucoup d'ego. Là. Fait que moi, quand je comprends pas, je suis entourée de gens qui sont vraiment bons, tu sais, qui m'aident. Qui, des fois, mes comptables me disent, tu sais, ça doit faire trois ans que tu es supposée savoir ça. Ben, tout bad. Qu'est-ce que tu veux, je sais pas. Tu sais, fait que je suis tombée à terre, puis je me relève, puis je continue. Puis, tu sais, ça a l'air beau là, de dehors, là, tu sais. Puis, cette compagnie-là, donc ben l'air de réussir, puis ça a donc ben l'air facile, mais tu sais, c'est à chaque jour, tu penses que tu t'es sorti de la tête de l'eau, tu te la rends, puis c'est jamais, c'est, ça se stagne jamais. Mm-hmm. Puis moi, ben, étant donné que je suis toute seule à la tête de ça, ben, tu sais, je suis toujours en train de me remettre en question sur plein d'affaires. Une journée sur trois, je lâcherais tout. Tu sais, fait que c'est assez olé-olé, mais en même temps, je pense qu'on le fait parce que c'est ce qui nous allume aussi. Là.
C'est fou, Andréane, parce que tu me dis exactement ce que je voulais d'entendre d'un entrepreneur. Parce que je le vois, je l'entends tout le temps que c'est d'un côté, ça a donc bien l'air beau. Ça a donc, les gens sont riches, font de l'argent en ligne et tout ça. Et l'autre côté, quand je connais l'entrepreneur en arrière, c'est oui, ils font de l'argent. Mais l'autre côté, c'est leur vie totale. Ça demande énormément de temps et on le sait jamais, mais ils ont passé proche d'une faillite il y a pas longtemps. Ils ont eu tel problème. Fallait qu'ils changent d'employé.
Il y a quelque chose qu'on parle jamais là, des entrepreneurs, puis c'est l'énorme solitude que les entrepreneurs vivent. On vit une solitude qui est inexplicable parce qu'au final, là, tu sais, moi, à la fin de la journée, quand je me couche seule, tu sais, au final, si ça marche pas, c'est moi qui vais en écoper. Les décisions que je prends, c'est tu sais, t'es tout seul, puis tu deviens, puis tu sais, c'est pour ça qu'ils disent que c'est très important. Puis moi, là, à un moment donné, là, ça va vraiment mieux que ça allait, mais je te dirais, recul d'un an et demi, tu sais, deux ans, là, puis à chaque fois que je vivais un revers ou une déception, c'était comme si j'allais jamais m'en sortir. Je perdais un employé, c'était la fin du monde. Puis à un moment donné, la façon que j'ai comme trouvé de me détacher un peu de ça puis de le vivre un peu moins tough, c'était, tu sais, moi, dans le fond, demain, là, si jamais ça marche plus, là, ben tout bad. Tu sais, j'ai une full belle famille, j'ai des parents qui sont tellement cool, mon chum, tu sais, j'ai des amis, j'ai comme compris que ce qui comptait le plus, c'était tout eux autres. Puis que elle, effectivement, la compagnie, c'est toute ma vie. Elle me gruge toute mon énergie, elle prend tout le petit gaz qui me reste que j'ai, mais hey, si ça marche pas, moi, faire d'autres choses. Moi, je ne savais pas que j'aimais le commerce au détail à 24 ans. Là, fait que je pense que moi, j'aimais d'autres choses à 33. Fait que je suis comme, dans mon cas, là, les entrepreneurs connus cool des réseaux sociaux, là, tu sais, t'as l'impression que c'est donc facile, puis c'est donc le fun, puis c'est un monde est donc ben tout le temps, tu sais, sont tout le temps dans l'abondance, puis dans l'argent, puis tout ça, puis c'est ben au contraire, là, tu sais. Puis moi, j'essaie de le montrer le plus possible, tu sais. Des fois, les filles, j'ai reçu un message justement hier ou avant-hier d'une fille, puis je trouvais ça cute, puis elle me disait, tu sais, elle dit, quand je regarde tes stories puis je te vois autant travailler. Elle dit, quand que ça me tente pas, mettons, de faire des travaux d'école puis peut-être encore à l'école, elle dit, puis je veux juste m'écraser puis écouter Netflix. Je me dis, hey, ah ouais, dégadine-toi, genre, puis check comment qu'elle travaille. Puis, mettons, la réussite que j'ai est directement liée à tout l'effort que j'y mets dedans. Puis, si j'en mettrais pas, ça irait pas, tu sais. Fait que, tu sais, en même temps, j'essaie de le montrer le plus possible.
Oui. C'est comme, moi, je reviens toujours à ça. Je trouve ça intéressant ce que tu dis parce que quand, bon, j'étais au magazine Clin d'œil, on engageait des stagiaires. Puis, les stagiaires qui ont toutes réussi, c'est ces filles-là qui en faisaient le plus que qu'est-ce qu'on leur demandait, qui travaillaient à fond la caisse. Et quand on parle, tu sais, du fait que c'est difficile parfois de trouver les bons employés et tout ça, j'ai l'impression que ça revient à ça quand même. Est-ce que tu as faim? Est-ce que tu as le goût? Est-ce que c'est ta passion? Veux-tu aller plus loin? Veux-tu apprendre? Tu sais, ça a l'air tellement peut-être plus facile maintenant faire le travail ou arriver au poste qu'on aimerait, mais quand on rentre dedans, on est comme, oh, OK, j'avais pas vu tout l'escalier à monter. Là.
Moi, nous, on ne peut pas engager des gens qui, tu sais, à part, c'est sûr que toutes les filles qui font les boîtes, on les prend une à deux journées de semaine, on ne veut pas qu'ils en fassent plus parce que c'est trop répétitif comme job. Puis moi, je veux qu'ils rentrent à job, puis ça leur tente de venir travailler, puis ça leur tente toutes. Ils sont genre, oh mon Dieu, c'est le fun, puis ils aiment ça, j'en fais des colis. Moi, j'en fais au moins une journée par semaine, ça me détend.
Est-ce que tu as des regrets?
Pour vrai, là, admettons, là, tu me recules, j'aurais pas parti ça tout seul. J'avais un associé à la base. Finalement, quand il nous a fini la convention d'actionnaire la veille, j'ai eu comme un mauvais feeling de fille qui a des mauvais feelings. Mm-hmm. Puis j'ai fait la fuck off, tu sais, je le signe pas. Puis j'ai comme. Moi, quand j'ai emprunté le 15 000, là, je le devais, dans le fond. J'allais convaincre un banquier de m'emprunter 15 000 piastres que je devais déjà. Tu sais, j'ai parti de la compagnie, il me restait 3 cents de loose d'un compte. C'était une catastrophe. Okay. Puis. J'avais décidé de ne pas le faire avec cette personne-là pour plein de raisons, mais avec du recul, je me dis, j'aurais donc dû trouver probablement une fille qui avait toutes les capacités que j'avais pas. T'sais, tout le côté plus comme gestion de personnel, gestion d'argent, planification financière, puis toutes ces affaires-là que moi, là, ça fait 4 ans, puis j'ai même pas l'impression que je le maîtrise totalement, puis ça fait 4 ans que je le fais pareil, tu sais. Mm-hmm. Tu sais, moi, j'ai tout sur mes épaules, fait que tu sais, j'aimerais faire de la pitcher sur quelqu'un d'autre.
Oui, d'avoir un sidekick un peu, là, qui va te booster.
Moi, je suis une jaune là, dans les couleurs des gestionnaires d'entrepreneurs. Je suis une artiste à genre 85%. Je dors avec un calepin, là, puis j'écris la nuit pour me demander qu'est-ce que je vais faire après avec ces idées-là, puis tout ça. Fait que, tu sais, je prendrais une à côté de moi une planificatrice, stratégique.
Une terre à terre. Ouais.
Exactement.
C'est quoi ton plus grand défi en tant qu'entrepreneur en ce moment?
C'est de gérer la croissance. T'sais, on est vraiment, moi, je suis dans un Y. Je suis comme, c'est soit qu'on reste de même, puis on grossit, on double de chiffre d'affaires d'année en année ou on fout le gaz dans le fond.
Est-ce que tu as le goût de peser sur le gaz?
Je me suis posé beaucoup la question. Je te dirais que je n'étais pas certaine que j'avais le goût. Parce que moi, dans le fond, là, je me suis comme dit, qu'est-ce que je veux dans la vie? Moi, je veux genre ma petite famille un peu genre secrète. Je veux aller à la pêche. Je veux vivre une vie normale, de personne normale. T'sais, moi, c'est ça qui moi, les premières médiatiques d'affaires, j'aime pas ça aller là. Je sais pas quoi dire au monde. C'est bizarre, mais j'ai vraiment envie d'avoir une vie très, très, très terre à terre. Puis de mettre le gaz dans le fond, j'avais l'impression que ça n'allait pas me donner ça. T'sais. Puis moi, ça ne m'intéresse pas là, d'être riche pour avoir pas de vie. Là. Je veux pas vivre ça. Puis là, ben, dans les derniers temps, je me suis posé beaucoup de questions. Puis je me suis comme rendu compte que je pense qu'effectivement, j'étais capable de mettre le gaz dans le fond, mais d'avoir une vraie vie. T'sais. C'est juste de m'entourer des personnes qui vont me permettre d'avoir cette vie-là.
Puis qu'est-ce que tu veux développer là, prochainement?
Il y a la maternité qui me tente vraiment beaucoup. Je suis vraiment pas proche de vouloir avoir des enfants. Mais moi, toutes mes amies là, qui étaient comme, c'est pas parce que, tu sais, ils me disent, moi, on aurait dit que le moment où je tombe enceinte, il fallait que je devienne lettre, que je m'habille mal. Oui. C'est comme c'est bizarre. Tu sais, c'est comme bizarre qu'il n'y ait pas d'un peu de fast fashion de la femme enceinte parce que, tu sais, c'est la définition du fast, là, c'est pas mal elle, dans le fond. Tu sais, elle change pendant ces temps-là, puis après ça, elle redevient l'humain normal qu'elle était avant. Là, t'sais.
Mais je vais te dire, je vais te faire une confession parce que moi, ça fait mon petit gars 15 mois maintenant. Ouais. Et quand j'ai essayé de trouver justement des vêtements de filles enceintes, je pense que j'ai trouvé peut-être deux marques intéressantes. Une des choses que je me suis rendu compte, finalement, c'est que je me suis dit, ben, je vais prendre des vêtements de type H&M, un peu plus grand que d'habitude. Puis c'est ça que j'ai fait.
Pas parce que t'es large, là, mettons que t'es une X large de la bédaine, que t'es une X large des épaules. Là.
Non, mais moi, ce que j'ai trouvé, par exemple, c'est que c'est les robes qui sont extensibles, là, un peu moulantes et extensibles, me faisaient vraiment bien parce que ça venait juste mouler ma bédaine. Ça fonctionnait. Mais si t'embarques là-dedans, écoute, je t'appuie à 100% parce que c'est vraiment
ça que j'ai vu, puis on a comme à un moment donné, tu sais, brièvement parlé un peu sur les réseaux sociaux, puis j'ai des filles qui m'écrivent sans farce à tous les jours.
J'en doute même pas.
Et puis il y a la collection Curves qu'on veut vraiment développer plus, là, parce que c'est vraiment pas évident. Là. On essaie d'acheter du linge, puis on aurait dit que la mode est tellement mal faite. Là. Je comprends plus pourquoi. Comme si les filles qui arrivent dans, mettons, les collections, les plus size de toutes, je comprends même pas pourquoi ça existe, le plus size. Tu sais, j'ai comme de la misère. Là. Je vis un combat quotidien, puis moi, quand j'essaie d'acheter des beaux vêtements pour ces filles-là qui ont été mis à... Puis je dis ces filles-là, en guillemets, parce qu'ils sont comme mis à part du monde, mais il n'y a pas de raison. C'est comme bizarre. Puis à chaque fois que j'essaie d'acheter des vêtements cool, ben c'est pas cool, puis ils me le vendent deux fois plus cher que les filles dites normales. Tu sais, je suis dépassée par les événements de tout ça. Fait que j'essaie de trouver une façon qu'on trouve des vêtements plus nice pour toutes les filles parce que toutes les filles sont pareilles. Là.
Mm-hmm.
Ça devrait pas être mis à part. En tout cas, c'est un combat avec lequel je travaille. Fait qu'après les fêtes, on devrait avoir pris toutes nos décisions d'expansion qui comportent ces deux sections-là, assurément.
Okay. En terminant, Andréane, je veux savoir qu'est-ce que ça veut dire pour toi, femme de fer?
Moi, je pense que c'est se donner le droit de croire à ce qu'on est. Je sais pas trop où je m'en vais, mais je suis certaine que la façon dans laquelle j'y vais, c'est exactement comment j'ai envie d'y aller. Fait que je pense que c'est comme juste se donner le droit d'être exactement ce qu'on pense qui est bien. Même si des fois, moi, j'ai l'impression que ce que je fais, les autres le font pas, ou les autres sont pas pareils, puis pourquoi je suis pas comme les autres, puis pourquoi je le ferais pas de même. Mais moi, profondément même, à chaque fois que je me couche le soir, je suis exactement ce que j'ai envie d'être.
Je pense que c'est le plus beau cadeau que tu peux te donner.
Exactement. Ça va bien aller.
J'adore ça. C'est vraiment ça sur un chandail, ça va bien aller.
Ça va bien aller. Moi, je dis tout le temps ça. Moi, je dis ça aux filles au bureau, là, genre, on ne sauve pas des vies. Là. Moi, mon chum, des fois, il revient de ses journées, là, puis je dis, tabarouette, pour moi, lui, il vient d'en sauver une couple. Là. Puis je suis comme, moi, puis je disais tout le temps ça avant que je sois avec Matt, puis tu sais, Matt est dans le domaine de la santé, puis je disais tout le temps ça, on ne sauve pas des vies. Là. Puis là, depuis que je suis avec, je suis comme, qu'on ne sauve pas des vies.
Mon chum en sauve, mais pas moi.
Et qui est baba et que non, on te le confirme. Fait que ça relativise encore plus qu'avant.
Absolument. Merci beaucoup, Andréane. En terminant, je veux savoir où est-ce qu'on peut te contacter. Instagram, c'est ton site web.
Partout. Instagram, partout. Je suis tout le temps là. Sur Facebook aussi, par courriel, name it.
Merci beaucoup, Andréane, pour ta sincérité. J'ai vraiment adoré l'entrevue.
Ben, merci à toi d'avoir pensé à moi pour ton podcast.
Merci d'avoir été à l'écoute. J'espère que vous êtes incroyablement inspirés pour vos projets. Si ça vous intéresse de garder contact, rendez-vous sur Instagram sur le compte de Femmes de Fer ou abonnez-vous à l'infolettre. Et si vous aimez l'épisode, vous pouvez laisser un commentaire. C'est ce qui me motive à trouver les meilleures femmes de fer pour vous. Et je vous dis à la prochaine.